Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau magazine de la moto, les dimanches d'à partir de 11h sur Campus Lille 106,6 ou www.campuslille.com. Au sommaire de cette émission, retour sur ce championnat du monde de vitesse 2019 qui a débuté le 10 mars à Losail au Qatar et qui se termine aujourd'hui sur le circuit Ricardo Tormo à Valence. Pour en parler avec nous aujourd'hui des intoxiqués de sport moto, d'abord on va essayer des duos, tiens, de Nicolas, Nicolas Poiret et Nicolas Langlas. Messieurs, bonjour.
Bonjour les miches.
Salut la miche.
Vous êtes bien intoxiqués de sport moto et de vitesse?
Non,
vous êtes des vieux, ça fait depuis 40 ans, il y a un problème de micro.
Il n'y a pas de micro.
Il faudrait que tu parles ensuite de Jean-Pierre. Ça voilà, marche. Voilà.
Ça marche,
voilà, ça ouais, marche très bien, voilà, on t'entend. Ouais. Voilà. Donc vous êtes bien intoxiqué, hein, pour bien préciser aux auditeurs que vous faites vous avez suivi depuis les années 70-80, hein, toute l'évolution, hein, de la course moto.
Bah oui, effectivement, et on voit encore de nouvelles pages à chaque fois, et c'est vrai que c'est toujours.
Et vous n'êtes toujours pas blasé de, non. Non.
En fait, maintenant, on a des belles images.
Des gens qui tournent en rond sur un circuit, qui font des tours.
Quand on a commencé à s'intéresser à tout ça, on lisait ça une semaine après dans un entrefilet dans Motojournal. Maintenant, on a des images en direct. Donc
c'était du temps où tu roulais en MZ, en 125 MZ,
exactement,
Nicolas.
Exactement.
C'est ça. Ouais, et tu lisais le Motojournal avec les comptes rendus des Grands Prix.
Voilà, on allait tous les jeudis, on allait chez le marchand de journaux.
Toutes les semaines,
3 francs.
Ouais. Ouais. Oh, c'était pas 3 francs.
3
hein.
francs, Motojournal.
Le Motojournal, 3 francs à l'époque.
Ouais. Quand j'ai commencé, c'était 2 ou 3 francs. Ouais.
C'est en 72.
Voilà, alors deux Nicolas et deux bons duels. Alors, deux bons duels par aujourd'hui. Hein. Alors, je parle pas de petits poids. Hein. Je parle donc de.
C'est la mise en boîte, on est habitué.
De Jean-Pierre. Jean-Pierre et Claude. Alors, c'est pareil. Alors, c'est plus intoxiqué. C'est carrément une.
On est dedans.
Oui, vous êtes.
Oui, d'ailleurs, aujourd'hui, pour nous, c'est très très gênant parce qu'on devrait être devant le Grand Prix en train de regarder.
Oui, oui, mais c'est pas grave, on va enregistrer.
Ouais, j'aurais préféré faire ça alors, aujourd'hui, la semaine prochaine.
Ouais, mais que là, tout est fait. De toute façon, la Moto 3, bah, c'est fait. Hein. On connaît le champion du monde 2019. La Moto 2, c'est pareil. Oui. Et le Moto GP, c'est aussi, c'est fait.
Oui, on est tellement impressionnés que la dernière course, c'est important quand même à regarder.
Ouais. Voilà. Il y a des places qui ne sont pas encore sûres.
Oui, bien sûr, bien sûr. Et on va s'y présenter alors deux Falcon. Alors voilà, bah, c'est en duo. Alors donc Tony, le papa, qui commence à avoir l'habitude d'être des studios de Radio Campus.
Ouais, bonjour la miche.
Bonjour Tony.
Bah, habitué, oui.
Oui, ça commence. Vous trouvez facilement les studios.
C'est vrai qu'on trouve facilement.
Oui, voilà. Et puis alors le fiston, Vincent.
Ça va la miche?
Ouais, ça va et toi? Alors Vincent, raconte-nous tes champions. Alors j'ai dit champion du monde, pas tout de suite. Pas tout de suite. Hein. Championnat de France, donc pré-Moto 3.
Ouais, cette année j'étais champion de France en Objectif Grand Prix sur une pré-Moto 3 Béon. Ouais.
Alors j'ai vu les résultats là. Vous avez le nombre de points, c'est 200. Vas-y, dis-moi un peu.
204, je crois.
Ouais, il termine à 90 points d'avance, il me semble.
Je l'ai là, ouais, 90 points d'avance. Ouais. Comment se fait-il qu'il y a une telle différence
Il a été titré une course avant, alors qu'il n'avait pas participé à la première épreuve.
D'accord.
Donc, en fait, il n'a pas eu besoin de faire le championnat complet. Ben, comme à toutes les épreuves, il raflait pole position, record du tour et victoire. Donc, en fait, il totalisait à chaque fois 55 points par week-end. Donc, ça a été très vite, quoi.
Comme Zarco.
Voilà. Alors on pourrait dire que c'était de futur Quartararo, ou alors Johan Zarco, si on veut.
On espère, et si on le dit, tant mieux.
Voilà. Oui, parce que Vincent, tu participes aussi au championnat espagnol.
Ouais,
le CEV.
Ouais, cette année j'ai fait le championnat d'Europe. Ouais. J'ai eu un peu plus de difficultés, je termine 20e.
Mais c'est pas pareil là. Hein.
Ouais, mais j'ai quand même fait un top 5, enfin j'ai quand même fait deux top 10 et un top 5. Et pas mal de à toutes les courses, quasiment, je faisais des chronos excellents.
Ouais, très rapide. Et d'ailleurs, il démarre la saison 5e du championnat, puisqu'en fait, sur la première épreuve à Estoril, sur deux manches, il finit 5 et 7 de première course. Donc, vraiment très rapide. Il était premier français. Et c'est vrai que sur la première épreuve, il avait vraiment un très, très bon rythme. Et après, la saison s'est moins bien déroulée, mais quand même avec toujours des bons chronos, moins de réussite, un petit peu de problèmes techniques, des casses. Donc, moins de réussite, mais un très très bon début de saison, quoi.
Ouais, donc on suppose que le championnat, le CEV, c'est un peu plus relevé, hein. Enfin, même beaucoup relevé.
Oui, carrément, il hein y a 65 pilotes en moyenne sur les courses, 17 nationalités représentées. Donc vraiment ouais, des teams de Grand Prix qui viennent là faire rouler des très jeunes pilotes très rapides avec beaucoup de moyens, quoi.
Il faut avoir, oui, il faut avoir la moto pour aussi, il faut le et un budget aussi.
Ouais, ouais, bah nous on avait, on a eu cette année une très très bonne moto puisqu'on a racheté une 2019, mais globalement ça s'est bien passé. C'est vrai que bon, on a toujours, on aurait toujours eu besoin de plus de moyens, mais globalement il avait quand même une moto pour rouler très très vite. Ça s'est bien passé. Après faire mieux, c'est toujours, on peut toujours faire mieux, mais.
Il y a plusieurs types de moteurs ou c'est exactement toujours le même
non,
moteur?
Non, le même moteur. Tout le monde utilise le même moteur, des stades de préparation différents, mais les moteurs sont identiques.
Okay.
Les courses de Moto 3, c'est vraiment passionnant. Il y a de la bagarre du début jusqu'à la fin.
Ouais.
Le championnat, c'est passionnant. Quoi.
Le problème de l'Espagne, c'est qu'il faut aller à chaque fois retourner là-bas. Espagne. Tu nous raconteras comment ta vie, hein, Vincent, hein, parce que tu te partages entre le lycée, tout ça, et puis les courses moto, les grands prix, les week-ends. Hein. Il faut faire les essais. Généralement, tu arrives du vendredi. Ou du jeudi même.
Et mercredi soir.
Hein. Mercredi soir en plus. Ouais, tu prends l'avion d'ici ici à Lille et direction là-bas l'Espagne, sur chaque circuit. C'est compliqué quand même. Hein.
C'est beaucoup de travail. Ouais.
C'est beaucoup des semaines, de travail.
Beaucoup de travail. Moi, j'achemine le matériel donc avant, forcément. J'arrive du mardi et je repars souvent.
Et toi, Tony, tu pars avec le camion, tout ça, ouais, la moto, ouais, le camion, le matériel, les combines, les casques.
Ouais, tout ça. J'achemine tout le matériel et lui, il vient, il arrive le mercredi et puis il démarre les essais.
Alors, tu prends tout en double ou en triple?
Enfin, ouais, les carénages, tout ça, les combinaisons.
voire même beaucoup plus.
Non, parce que deux chutes sur un week-end, ça peut se faire. Hein.
Carrément, même là, la dernière à Valence, il a chuté très rapidement, c'est jeudi soir.
Jeudi soir,
il a chuté une chute très violente, rapide, où il a encore arraché une combinaison, détruit une moto. Donc, on part avec chaque fois avec deux châssis. 5-6 paires de jantes, 5 carénages, 4 combinaisons, 6 ou 7 casques.
Oh bah t'as un gros camion alors.
C'est ça. Non mais les chutes, de toute façon, ça fait partie du jeu. De toute manière, la moto est prévue à être construite rapidement entre deux séances. On a tout ce qui est équipement, guidon, platine, tout ça de secours
prêt. Et la partie cycle.
C'est-à-dire
si
la partie cycle ouais, également. Aussi, ouais. En fait, avant une séance, de toute façon, il le sait, la moto est prête à être construite dans les 15-20 minutes. Donc en fait c'est-à-dire que même quand tout se passe bien, on prépare un réservoir de carénage, des platines droites, des guidons. Il le sait de façon, lui-même, de façon, il le sait, comme il met vraiment du rythme dans les séances, qu'à tout moment, il peut très bien, suite avec un accrochage à un pilote ou une erreur de pilotage, ou ça peut chuter. Hein. De toute façon, ça fait partie du jeu. Et il faut juste être tout le temps prêt à ça. Quoi.
Là, vous n'avez qu'une moto, hein,
qu'une moto, mais on prend quand même deux châssis complets. C'est-à-dire qu'en réalité, on peut en construire une complète. Quoi. Si elle prendrait feu, on pourrait quand même prendre
des. Qui c'est qui répare les combines?
J'ai un cordonnier.
qui vient sur place et qui t'accompagne?
Quand je rentre, je ramène les combinaisons abîmées et il me les répare.
On pourra peut-être parler aussi de la sécurité passive, hein, parce que maintenant, on a vu dans les. En MotoGP, hein, les combinaisons sont équipées d'airbags. On les voit quand la jute, après, on a du mal à bouger un peu les bras. Et vous, c'est pareil, non?
Non, nous, on n'a pas encore. Ces combinaisons, c'est pas obligatoire avec les petites motos.
Donc, c'est intégré dans la combinaison.
Ouais.
On a la combinaison est prééquipée, mais pour l'instant, notre partenaire Ixon ne nous les fournit pas.
Très bien, bon, on va saluer notre ami Yanis, notre franco-grec, bonjour, qui est passionné aussi de sport moto.
Bonjour à tous,
Qui lui n'est pas à deux.
Qui n'est pas à deux.
Falcon.
Ah oui, non, il est tout seul.
Il est tout seul.
Moi, c'est toujours un petit peu l'électron.
Libre.
Et puis, notre capitaine de bord, on salue notre ami Laurent Audier, qui est à la technique.
Ah, t'es pas obligé de dire mon nom, je suis recherché par la police. Abruti.
Sound friends.
Magazine de la moto tous les dimanches à partir de 11h, c'est sur Campus 106,6. On commence avec l'actu qui s'emballe depuis quelques jours là, sur le MotoGP. Hein. Il se passe des choses qu'on s'attendait pas à ça. Lorenzo qui raccroche. Comment ?
Une conférence de presse vendredi.
T'as encore ton problème de micro,
ouais.
Prends celui de Jean-Pierre. Voilà.
Ouais, donc il y a eu une conférence de presse vendredi et c'était Lorenzo qui a annoncé son arrêt après la course de Valence. Et du coup, après, ça s'est emballé parce que ça fait une place de libre alors que c'était pas prévu. Donc on a vu des espoirs un petit peu partout naître pour pouvoir
récupérer la moto,
la place ou au jeu des chaises musicales récupérer une moto. Donc on en est là. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose.
Il paraît qu'il y a une info. C'est Nicolas, le deuxième Nicolas, là, qui va nous dire.
Alors ça va jouer dans les moments à venir, mais normalement Alex Marquez chez Honda Repsol. Et il y a même le team VDS qui est un peu agacé parce que, à mon avis, je pense qu'il devait rester en Moto 2.
Ouais, il avait déjà signé en fait avec VDS.
Mais d'après les potins,
Ah oui, c'est encore que
d'après les
c'est
potins,
conditionnel encore, Nicolas.
Les deux frères ensemble.
Je les suis juste avant de venir à la radio.
Mais est-ce que vous pensez qu'on peut avoir les deux Marquez sur la même marque, les deux motos ?
Bien sûr.
Marquez Repsol.
Hein ? Bien sûr, je pense que c'est ce qu'ils espéraient. Moi, je pense que c'est ce qu'ils espéraient depuis un moment. Et puis là, c'est une opportunité qui fait avancer le projet. Je pense que le projet, de toute manière, aura abouti au moins sur 2021.
Ouais.
Puisque c'était, à mon avis, Alex Marquez, son choix, c'était la dernière saison en Moto 2 après leur Moto GP. Et c'est vrai que là, l'opportunité se libère plus vite que prévu.
Ce qui va être bien, c'est que le papa, il ne devra plus changer de boxe. Il pourra rester toujours dans la même
boxe. Avec la même boxe,
c'est vrai. Parce que quand on regarde bien, il change de boxe tout le temps. Et là, au moins, il ne devra plus bouger.
En même temps, chaque pilote qui vient du Moto 2 et qui est arrivé sur la Honda, il n'était pas à la fête. Hein. Donc c'est un sacré cadeau empoisonné, moi, j'ai l'impression. Parce que je ne vois pas Alex Marquez faire quelque chose sur cette moto. Hein.
Oui. Non, mais là, on parle d'un pilote espagnol dans un team... quasi 99% espagnol. Je pense que la moto va être quand même bien construite autour de lui. Quoi.
Et puis au niveau marketing et rebondissement et tout ça, c'est pour les Espagnols. La Dorna, c'est quand même espagnol.
Mais,
ça va leur faire.
Imagine qu'il ait la moto et qu'il finisse dans les 20 régulièrement. C'est terrible pour.
Ça, c'est un coup de poker de toute façon.
Donc, c'est pas la bonne moto pour débuter en MotoGP.
C'est comme avec Zarco chez KTM. En début de saison, on y a cru. Et puis, de toute façon, c'était...
Personne n'y a cru. Enfin, toi, peut-être.
Non, moi, je n'y ai pas cru, mais pour respecter les pilotes, il y a du travail derrière. On en a un sur les studios. Et il y a du boulot. Et puis, voilà, quoi, il faut respecter les gens qui roulent en moto. On n'est pas dans le football, ne l'oublions pas.
Alors moi, je ne sais pas, parce qu'il y a quand même une concurrence. Dans les équipes, y a quand même, ils ne donnent pas leurs infos sur les...
Bah là, il faut penser que oui.
Hein ?
Oh, pensez que oui.
Sur les deux frangins, ils vont devoir, je sais pas, apparemment, surtout, ils s'entendent bien quand même.
Ils s'entraînent ensemble, hein, ouais. En motocross et tout ça, ils sont toujours à deux. Hein. Donc ça peut favoriser, oui.
Je pense que là, on va avoir deux HRC sortir en même temps des box.
Comment ?
Je pense que là, les deux HRC vont tout le temps sortir à deux.
Tu crois ?
Au début, oui. Ah,
oui. Je pense que le scénario il est évident, inévitable.
À mon avis, pendant les essais, prendre une roue, ça ne va pas être un problème. Quoi. Parce que comme hier, aux essais de Valence, où tout le monde scrutait l'autre pour savoir qui allait prendre la roue de l'un. Et parce que quand vous regardez bien aux essais, maintenant, ils sont toujours en train de regarder. S'ils sont tout seuls, ils se prennent des roues, tout ça. À mon avis, les dons d'arrêt de sol, elles vont sortir en même temps pour y aura un coup de main du grand frère.
Ouais. Enfin, il y en a un en ce moment qui marque quand même, surtout dans les essais, pour l'instant. C'est Quartararo. Ouais.
Alors, est-ce qu'on pouvait pas, on avait du mal à imaginer en début de saison, là, au mois de mars, que Quartararo serait aussi bien placé. Hein. Alors, bon, c'est vrai qu'il fait 6 pôles.
6 pôles.
6 pôles depuis le début de l'année.
Il ne faut pas oublier que Quartararo, c'est un grand pilote. Ça a toujours été un grand pilote. Il n'avait pas la bonne équipe. Il est bien encadré. On le laisse tranquille. Il n'a pas la grosse tête. Il est jeune. Il roule bien. Et à mon avis, il est dans une bonne équipe. Wico Zillenberg, qui était mécanicien de chez Rossi. Chez Lorenzo, pardon.
Et ancien pilote aussi.
Ils ont les moyens dans le team malaisien. Je pense qu'il ne faut pas oublier quand même que c'était un grand pilote qui vient du Moto 3.
Et Yamaha a compris aussi, ils vont lui fournir une moto officielle.
Donc l'année prochaine, ouais, apparemment.
Déjà depuis quelques mois, là, il a le moteur officiel avec les 500 tours supplémentaires. Il est jeune, il a la fougue.
Bah, on disait des essais. Pour les essais, il y a 6 fois pole, 4 fois deuxième et 2 fois troisième. Ça fait déjà 10 sur la première ligne. Hein. Sur 18 Grands Prix, je trouve que c'est pas mal du tout.
J'ai pas trouvé la saison 2019 passionnante. Parce qu'en fait, il y a un ogre qui est en train de faire du nettoyage, un peu comme dans la politique française. Mais il est en train de faire du nettoyage et tout le monde se barre. Quoi. Lorenzo s'en va, tout le monde s'en va. J'ai l'impression que les autres pilotes sont découragés. Des performances de Marquez.
Moi, je trouve qu'au contraire.
La suprématie de Marc Marquez et d'Honda.
Oui, bien sûr qu'il y a ça. Mais c'est le meilleur pilote du monde, c'est normal. Mais Quartararo, il a redonné un petit peu de baume au cœur chez Yamaha. Oui. Il a fait quand même quelque chose d'incroyable. Hein. Pour bien mesurer, il a fait en une saison autant de résultats que Zarco en deux saisons chez Yamaha. Et c'est notre époque, mais pour donner une idée, Christian Sarron, il avait fait 6 pôles, mais en 9 ans de carrière en 500. Ouais. C'est extraordinaire ce qu'il a fait. 6 podiums, ouais. Avec un gars en face de lui comme Marquez, parce que, et encore, il a été trahi par son sélecteur qui l'a privé d'un podium supplémentaire. On ne sait pas ce qu'il va faire aujourd'hui. Il a quand même fait une saison exceptionnelle, et il a redonné le moral à Yamaha. Les gens se sont dit, la Yamaha, elle marche. Donc Vinales, il s'est un petit peu bougé un peu plus.
En fin de saison, c'est vrai.
C'est vrai que il a montré la voie quelque part.
En fait, ce qu'il faudrait, c'est que la Yamaha progresse encore un peu en vitesse de pointe. C'est ce qui manque de la vitesse de pointe.
On a bien vu que sur 2-3 Grands Prix, Fabio Quartararo qui était devant, et puis on a Marquez qui est juste derrière, et qui est sur une légère ligne droite, hein, il le passe facilement.
En performance,
moi je trouve qu'il passe facilement quand même.
Il ne faut pas oublier que le moteur Yamaha, comme je disais au début d'année, il date de 2004. La base moteur, c'est le même. Ça a été transformé, amélioré, les cylindres ont changé, mais le base moteur est toujours de 2004. C'est le même.
Si Marquez a dominé autant cette année, c'est parce qu'il a gagné quelques kilomètres heure, un peu de puissance. Et avant, il se faisait déboîter par la Ducati. Dovizioso, il avait un petit peu de chance de le battre. Là, cette année, c'était beaucoup plus dur pour Dovi, parce que la Honda est beaucoup plus rapide.
Mais je crois quand même qu'il a joué sur le moral des troupes. Il faut quand même avouer que vis-à-vis des autres pilotes,
mais c'est quand même
ses performances, depuis 2013, il est en MotoGP. Il a loupé un titre en 2015. Premier, deuxième à chaque fois.
Les Ducati, on les voit pratiquement plus.
C'est vrai que là, depuis le milieu de saison, c'est un peu évincé des avant-postes.
On ne sait pas.
Dovizioso est vice-champion du monde, normalement.
Oui.
Donc,
les trois premiers ne changeront pas.
140 points derrière.
140 points
140
derrière.
Points derrière, c'est
dingue.
C'est quand même énorme.
Mais les Suzuki ont bien progressé. Mais je pense que Marquez, pour l'instant, il est en haut de la feuille et il ne bougera pas avant un moment.
Bon, moi, je pense
qu'il s'améliore de plus en plus. Et voilà.
De faire une pause musicale et après, on parlera de notre pilote aussi français, Zarco. Hein, qui, alors, c'est dommage hein, parce qu'il y avait. Quand on a appris que Lorenzo donc, prenait sa retraite, on s'est dit tiens. Une opportunité pour notre
Lorenzo.
Ouais. Hein,
il y avait une place. Ouais,
il y avait une bonne place à prendre.
Mais voilà, je pense que tout le monde en a rêvé de cette place.
Tout de suite, on dit tiens, bah, ça y est, Zarco, il a son guidon pour 2020. Hein.
Pour l'instant, il n'y avait pas une moto officielle. Hein. C'est la moto de
Nakagami.
Ah oui, Nakagami. Ouais. Ouais. Mais justement,
c'est la moto de l'année dernière, de la Honda de l'année dernière.
Mais l'histoire de Lorenzo, on le sentait arriver quand même. Hein.
Ouais. Il y avait beaucoup de rumeurs quand même.
C'est pas possible.
Il est
pratiquement avant-dernier ou dernier.
Après, il change
les grands prix.
On sentait aussi la démotivation.
Il change de moto.
Alors on pourra revenir pourquoi il a démissionné. Parce qu'il a eu une chute.
Il a eu une grave chute à Seine. Il s'est fait très mal.
Mal sur les vertèbres.
Il s'est fait très peur.
J'y étais. Donc je peux dire
qu'il y a eu une chute avant. Aussi qu'il l'a blessé aussi. Et c'est vrai que.
Alors il part avec 4,5 millions de dollars. Anthony.
Ouais, je pense que ça fait une belle somme. Ça fait une belle somme.
Pour la retraite, c'est ouais, bien.
C'est vrai qu'en même temps,
retraite, quoi.
En même temps, cette année, il a marqué que 25 points, donc c'est vrai que c'est difficile quand même pour lui. Ouais. C'est dur. Il pointe à la 19e place du championnat.
19e, ouais.
C'est compliqué.
Avec une moto d'usine.
Ouais. Bon. Avec la meilleure moto. Hein,
avec la moto qui est championne du monde.
Oui. Ouais. Oui, mais bon, champion du monde avec Marquez, mais parce que la moto, elle est faite pour lui.
Là, on ne parle pas d'un pilote débutant, on parle quand même d'un pilote qui a de l'expérience du MotoGP.
Ouais, donc trois fois champion du monde.
Donc l'expérience du MotoGP avec un team comme le HRC, je pense que c'est quand même la meilleure moto. Quoi. Mais faut avoir peur des mots, parce que le HRC aujourd'hui, c'est quand même...
Jorge Lorenzo, un pilote comme ça, qui a une carrière, il a été combien de fois champion du monde MotoGP?
Une fois MotoGP, une fois 125, une fois 250.
Non, mais en arrivé là, être...
Trois fois,
pratiquement toute la saison, il a été toujours pratiquement dans avant-dernier ou pas... c'est quand même incroyable.
Je pense qu'il était déjà démotivé un peu... presque au début, je sais pas pourquoi.
Il a commencé l'année sur des blessures.
Oui, voilà, c'est ça. Il est arrivé blessé.
Alors, est-ce que vous croyez que c'est les blessures qui font que ça cogite?
Parce qu'il faut pas oublier que Lorenzo est débarqué aussi chez Ducati et on a dit qu'il était foutu parce qu'il avançait pas bien. Il terminait 10e, 12e, pas dans les premiers du tout. Alors à un moment donné, ils se sont dit oh, ça va pas. Et au moment où ils ont dit qu'il allait partir. Il a gagné
des courses.
Et il n'a pas gagné qu'une fois, hein. Il a gagné plusieurs fois.
Et
c'est le seul qui luttait contre Marquez à un moment donné avec la Ducati.
Il ne les a pas volés, les victoires qu'il a fait.
Ah non, il est parti devant.
En fait, moi, j'ai lu un interview de Lorenzo. Il dit qu'en fait, quand il est tombé dans le bac à gravier cette année à Seine, où il s'est pété plus de deux cervicales, il s'est posé des questions, il s'est remis en question et il a dit est-ce vraiment nécessaire de continuer,
Voilà.
Je crois qu'il s'est fait très mal et très peur.
Oui,
le gars, il a 32 ans, il est quand même resté un mois à l'hôpital. Il ne faut quand même pas oublier qu'une année à Assen, il s'est cassé la clavicule et est parti aux essais à Assen. Il s'est cassé la clavicule le jeudi, le vendredi, il est rentré à Barcelone et il s'est fait opérer et il a fini 5e le GP.
Bon.
Donc c'est quand même des gens qui ont souffert, qui ont les corps bien détruits.
Ouais.
Donc
je propose de passer à un morceau de musique et après on parlera un petit peu de Rossi, hein, qui
cette année il marque le pas.
Il marque pas, voilà. Ouais. Et puis aussi on reviendra sur Zarco, hein, la démission chez KTM. Et puis plein d'autres choses. Voilà. À tout de suite.
Shuffling madness of the locomotive breath runs the all-time loser headlong to his death. Oh, he feels the piston scraping, steam breaking on his brow. Old Charlie stole the handle, now the train, it won't stop going nowhere to slow down. Oh, he sees his children jumping off
stations one by one. His woman and his best friend in bed and having fun. Oh, he's crawling down the corridor on his hands and knees. Oh, Charlie stole the handle. Now the train, it won't stop going. No way to slow down. No way to slow down. As they fall, and the all-time winner has got him by the balls. Oh, he picks up Gideon's Bible, open at page one. I thank God he stole the handle. Now the train, it won't stop going. No way to slow down. No way. No way to slow down. No way to slow down. No way to slow down. No way to slow down.
Retour sur ce championnat du monde de vitesse 2019, c'est la dernière aujourd'hui, hein. C'est à Valence, ça se passe donc sur le circuit Ricardo Tormo. Voilà, on va parler de peut-être de Zarco, Johan Zarco, hein. On peut-être retracer l'histoire un peu, ce qui s'est passé l'année dernière.
Ben en fait, nous on avait un petit peu cette idée là en tête, c'est-à-dire qu'on le voyait pas aller chez KTM, et c'est Fénelon, son manager de l'époque, qui l'a poussé à aller chez KTM, qui a signé. Alors effectivement, financièrement.
Felon. Pas fait de nom.
Laurent Felon. Felon.
C'était un bon deal financièrement, mais la moto était pas capable de gagner. Elle avait une réputation d'une moto assez difficile et pas très adaptée au style de pilotage de Johan Zarco. Donc nous on n'y croyait pas trop, et puis toute la saison on l'a vu se décomposer, on voyait son visage, il faisait pitié. Et il avait un coup au moral, il s'est séparé de son manager d'ailleurs, et dès qu'il disait quelque chose sur la moto, il pensait qu'il allait arriver là en sauveur et qu'on allait lui faire une moto autour de lui, mais non, c'était à lui de s'adapter à cette moto. Donc les sous de Red Bull ne peuvent pas tout, et puis en plus il y avait un problème, c'était que son coéquipier dans l'écurie, Paul Espargaro, alors lui, lui je sais pas comment il fait, hein, franchement, ouais. Avec une moto aussi difficile, faire ce qu'il fait, chapeau, hein, c'est un gars, il a,
oui, mais
il doit avoir des grosses coucougnettes.
Ah, il doit fermer les yeux, je pense. Il doit fermer les yeux, doit plier.
Il ferme les yeux.
Hier, il a fait
Vincent, il nous dit il ferme les yeux, et comme ça, il dit, oh, c'est passé, tu vois. Rendez-vous au prochain virage.
Une belle glisse de Espargaro, magnifique, avec remise en moto droite.
Ouais, on l'a vu, faut le jeter là.
Impressionnant.
Faut jamais oublier qu'il a été champion du monde moto 2, Espargaro. Et un beau champion, quand même. Franchement, il a fait des courses superbes. C'est un très bon pilote. Par contre, on dit souvent que la KTM, elle fait bien avec lui. C'est sûr qu'elle marche un peu mieux parce qu'il est déjà depuis 3 ans dessus. déjà on s'habitue quand même. Je pense qu'un pilote qui va s'habituer, mais surtout par sa régularité. Quand on regarde tout, il a marqué des points pratiquement. Il n'y a que deux fois où il a raté et il a toujours rentré dans les points. Tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Et là, il a fait une première ligne il y a
oui. sur quelques reprises. Oui, voilà, sur un tour, ouais. il arrive à se ouais. décomposer, ouais. comme on dit, et à passer.
Qu'est-ce qui se passe à cette KTM ? Parce que le moteur apparemment marcherait bien, il est performant. Mais c'est la partie cycle qui est, voilà, qui est rigide.
KTM, ils ont une religion. La religion, c'est un cadre en treillis des tubes, alors que tout le monde est sur un châssis en alu. Ils ont leur suspension à eux, WP, hein, avec ce White Power. Et donc, ils veulent mettre cette suspension-là. Donc, il n'y a pas beaucoup de références par rapport aux autres. Tous les autres sont en Hollins. Donc, ils ont leur particularité. Donc, ils ont un double boulot à faire pour mettre au point cette moto. Parce qu'ils ne peuvent pas profiter des références des autres. Quelque part, ils sont handicapés. Et cette moto était quand même développée par Paul Espargaro. Donc, lui. Même s'il n'est pas hyper à l'aise avec cette moto, c'est lui qui l'a fait mieux marcher parce que c'est un peu sa moto.
Mmh. Ouais. Ça a été bâti autour de lui quand même. C'était le meilleur. Ouais. Donc,
J'ai entendu dire que on mettait des coups de lame de scie dans le cadre pour le rendre plus.
Ça, c'est Guy Coulon à Tech 3 qui a fait ça. Ouais. C'est Guy Coulon.
Plus balayable à sortie de virage quand tu remets les watts.
Sur la moto d'Oliveira, ouais. Guy Coulon, il a essayé ça. Il a sacrifié un cadre pour voir, en donnant quelques coups de scie au bon endroit pour essayer d'assouplir un peu le cadre parce qu'il était trop rigide et Oliveira, il sentait rien.
C'est impressionnant quand même, mettre des coups de scie dans la partie cycle pour la rendre un petit peu plus.
La seule chose qu'ils ont pour KTM, c'est le nombre de pilotes. Les infos, quand même, ils devraient venir quand même petit à petit, hein, parce que ils ont quand même 4-5 pilotes qu'ils ont couru et qu'ils ont donné plein de. Il y a eu Bradley Smith aussi avant qui courait sur KTM, qui aura donné aussi pas mal de. Mais bon.
Donc voilà, donc Zarco, en cours de saison, il se dit c'est plus possible, il fait une dépression carrément, hein, je crois. Donc il pète un câble et il dit il abandonne tout, il dit j'arrête, c'est plus possible. D'ailleurs, il a abandonné une fois en course. Il a un bon ami une fois en course. Ouais, il est rentré au stand. Tout le monde se disait qu'est-ce qui se passe ? Il a un problème ? Non, il n'en pouvait plus en fait. Ouais. Et cette moto, est hyper fatigante à conduire. Donc,
ils ont été fair play avec lui, ils l'ont laissé partir. Donc c'est déjà pas mal.
Ils l'ont laissé partir. Un mec qui veut plus rouler de toute façon.
Mais bon,
faire.
Après, je veux dire, la Honda.
Ils vont pas le forcer.
La Honda, s'il voulait, il disait non, t'attends l'année prochaine et puis tu pars. Donc ils lui ont cassé son contrat et c'est bien parce qu'il peut rouler.
Ils ont gagné des sous aussi avec lui, hein, parce que à mon avis il avait un bon contrat pour 2 ans et là il lâche l'affaire. Regarde Lorenzo, il part pas sans pépette. Lui il est parti sans rien.
Hein. Chez Honda ils ont plus de moyens que chez KTM. Ouais.
Mais double peine pour Zarco parce qu'en plus il passe chez KTM. Quartararo prend la Yamaha. Et on voit ce qu'il fait avec la Yamaha. En plus Espargaro chez KTM, son coéquipier qui est toujours devant. Il évolue pas parce qu'on a regardé depuis le début de la saison, il est toujours 16, 15, 16, 17, hein, il n'y a pas d'évolution dans le classement.
Voilà, et donc l'alternative qui se posait pour Zarco une fois qu'il a quitté, c'était soit de devenir pilote d'essai, donc pour développer parallèlement la Yamaha qu'il connaît bien. Donc c'était une option qui plaisait bien à tous les pilotes Yamaha parce qu'ils savent qu'il sait la faire marcher. Et puis il y a eu cette opportunité avec Nagakami qui devait se faire opérer de faire 3 grands prix sur la Honda. Ouais. Et il a choisi cette option en se disant vaut mieux courir que et j'ai 3 grands prix pour faire pour montrer mes preuves. Sauf que en Australie il faisait tellement mauvais que c'était tellement des conditions difficiles que c'est difficile de découvrir une moto sur un circuit pareil. La Malaisie il aime bien donc il s'est pas mal débrouillé la fois dernière. Et là, il est un petit peu au niveau de Nagakami, là. C'est pas si mal, mais c'est pas.
Mais attends, il découvre une moto, je suppose que.
Oui, c'est sûr.
La position, ouais. les commandes sont pas identiques.
C'est intéressant pour nous parce que.
C'est
intéressant pour nous parce qu'on se dit quand même que. Il fait bien mieux qu'avec la KTM, donc ça veut dire que c'est quand même une moto qui est bien plus facile que la KTM, alors qu'elle est réputée difficile. Donc ça donne des indications pour nous qui sommes observateurs le bord de la piste.
Hein. Johnny, qu'est-ce que t'en penses ? Le professionnel de la vitesse.
J'en pense que là, il a pas roulé plus vite que la KTM Paul Espargaro aux essais qualifs. Donc c'est vrai que sur 3 grands prix, c'est un peu difficile de le juger comme ça. C'est vrai que c'est une nouvelle moto, une nouvelle équipe. après, pour moi, je pense qu'il aurait dû continuer chez KTM jusqu'à la fin, quoi, et puis persévérer, quoi. Je pense que changer d'équipe, c'est vrai que son choix était quand même difficile.
Et je pense que c'est moralement qu'il y a.
Ouais, voilà. Donc ouais, à ce niveau-là, des pilotes de MotoGP, je pense que même si la moto n'était pas la meilleure, je pense qu'il y aurait pu, continuer à essayer de trouver des solutions jusqu'à la fin, parce que finalement, changer d'équipe.
Moi aussi,
quand on regarde les résultats là, il n'est pas dans le top 5. Parce qu'en temps d'après ses propos, dans le remplacement de sa moto, il aurait tout de suite fait des meilleurs résultats. Or là, Paul roule quand même plus vite que lui avec la KTM. Donc moi, je pense qu'il aurait dû plus essayer de trouver d'autres solutions que de quitter KTM. Quoi.
Ouais, je pense aussi.
Et apparemment, c'est un metteur au point quand même, Zarco. Il est.
Je suis pas sûr, non.
Non, c'est quelqu'un qui choisit d'autres options que tout le monde. S'il y en a un qui est bien et qui va choisir ça, tout le monde le suit. Zarco, non. Il dit, tiens, en essayant ça, on va voir. Et des fois, ça marche. Au niveau des pneumatiques, il a plusieurs fois pris des trucs. On se dit, pourquoi il prend ça? Il a superment bien marché avec la Yamaha. Ça, c'est aussi.
Après, moi, j'ai des souvenirs quand même qu'avec la Yamaha, après beaucoup de séances qualificatives, la Yamaha était critiquée, elle allait jamais assez vite.
On est à la vitesse.
Vers la fin, il y avait beaucoup de critiques alors que la moto jouait top 5. Quoi. Ouais. Donc, je pense que là, c'est les souvenirs qui me reviennent là. Mais qu'au
final, toujours pareil cette année avec la Yamaha.
Ouais, mais d'après les dires, c'est la meilleure moto pour débuter.
Voilà.
C'est la plus facile et la meilleure moto pour débuter.
Alors le problème, c'est qu'il veut être champion du monde. Hein. Il est là pour la gagne, hein. Il n'est pas là pour le pognon, Zarco, quand même. Hein. Parce qu'il ne serait pas parti de chez KTM comme ça. Hein, voilà. Et le problème, c'est qu'il a 27 ans. Et que Fabio Quartararo a 20 ans. Et donc là...
Ah oui, c'est une question. Mais il y a beaucoup de trentenaires hein, dans Moto Grand Prix.
Il y a deux Français qui sont performants en MotoGP fameuse catégorie reine. C'est quand même.
Pour
les Français, c'est quand même c'est impressionnant. Quand même.
Il y a Dovizioso qui pense prendre sa retraite
oui,
aussi.
Oui, 33 ans. Quand
ça
même,
va bouger. Là, il y a toutes les.
Crosslow
qui ouais. va bientôt ouais. prendre sa retraite.
32 ans.
Il y a tous les pilotes de la génération fin 2010, début 2010 qui vont partir.
Voilà.
Donc il y aura du renouveau.
Et on a Vincent qui arrive. Bon, et voilà, il y a de la place pour Vincent.
On mettait les autocollants qui cacquent voilà, sur le carénage.
Vincent, voilà. Hein. Oui, t'as l'espoir, écoute, vraiment, t'as encore de belles choses à vivre encore. Hein.
Ouais, c'est sûr.
Voilà. Allez, on passe un morceau de musique et on se retrouve juste après. sais pas si vous avez remarqué, mais aujourd'hui dans les studios, pour parler donc de cette de ce championnat 2019 hein, de vitesse, il n'y a pas de femmes. J'en ai pas trouvé qui voulait venir parler au micro. Mais j'ai une auditrice au téléphone qui voudrait vous poser une question, messieurs. Bonjour.
Oui, bonjour. Donc moi je vous appelle parce que effectivement je suis en train de vous écouter. Vous parlez de retraite, mais il y en a quand même un qui pense pas prendre sa retraite, c'est quand même Rossi. Et en fait ma question, est-ce que parce qu'il va bientôt avoir 40 ans, cet homme-là.
Il a 40 ans.
Et donc je voulais savoir si dans l'histoire du MotoGP, il y a déjà eu un pilote qui avait atteint cet âge-là, enfin dans le MotoGP.
Oui, oui.
Voilà.
Alors, l'encyclopédie, Claude Bonduel qui va nous dire. Voilà.
Ah oui, dans les tout premiers Grands Prix, il y a même un Italien qui a couru en Grand Prix jusqu'à 46 ans.
Il y a Troy Bayliss aussi qui a fait des courses jusqu'à 40 ans.
Voilà, donc 46 ans, donc on peut voir aussi encore 6 ans. Encore,
mais ça fait longtemps quand même. Il y a eu Michael Wood aussi qui a fait le Titi alors qu'il avait passé 40 ans. Mais c'est vrai que ça remonte quand même à très longtemps.
Quelques années, avant les années 50.
C'est quand même un extraterrestre, hein, c'est parce que c'est Rossi.
Voilà.
Il ne faut pas oublier Biaggi qui a été titré champion du monde Superbike à 42, hein, 40 ou 42
42 ans.
42 ans, hein. Oui. Donc ouais, ça se trouve. Ouais.
Voilà, est-ce qu'on a répondu à votre question ?
Très, très bien, comme ça au moins je verrai Rossi encore.
Encore au moins 5 ans. Encore 5 ans, voilà.
Et vous nous appelez d'où, madame ?
De Bretagne.
De Bretagne.
On nous écoute jusqu'en Bretagne.
On espère tous un dixième titre de Rossi, ce serait fabuleux.
Ouais, ça va pas être facile. Hein,
oui, mais
on y croit.
Son contrat, il finit...
Si, moi j'y crois.
Son contrat moto finit en 2020. Fin d'année prochaine.
Il va re-signer. Vincent, il dit qu'il va re-signer. Vincent, il en régnait un petit peu sur la moto de Rossi. Il disait, tiens, si je pouvais avoir ça, ça serait bien quand même.
Il n'y a pas que lui, je crois.
Donc voilà, donc on peut encore voir Rossi jusqu'à encore 5 ans hein, sur les circuits.
Ouais.
Voilà. Allô ?
Oui, merci.
Voilà,
merci.
Très bien. On a répondu à votre question. Très bien, merci. Donc voilà, si on revient sur Rossi, on voit que jusque encore l'année dernière ou encore avant, il était dans le pack 3-4. Hein, au championnat du monde, il était toujours deuxième, troisième. Hein.
C'est la première année qu'il est troisième Yamaha. Oui. Ça doit commencer à gamberger un petit peu quand même là-haut. Hein. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. À chaque fois, les petits jeunes, ils poussent, hein, ça, c'est sûr.
Mais... Yamaha ne va pas se séparer de Valentino Rossi.
C'est une icône.
Même s'il ne gagne pas, il fait le buzz. Allez voir au Mans ou sur les circuits, il y a toujours les tribunes, tout est en jaune.
Il déplace du monde.
En fait, c'est vrai
même si c'est bien.
Il déplace du monde, c'est vrai qu'on regarde les Grands Prix, partout où on est dans n'importe quel virage, il y a au moins un petit avec un billet de bas en haut en 46. Quoi.
En fait, le problème, c'est que Lynn Jarvis, il parlait de s'en séparer. Mais il y a toute une armada derrière, déjà le marchandise, le packaging.
C'est plus qu'un pilote, maintenant c'est devenu un homme d'affaires.
C'est devenu, en fait, même quand il est dixième, eh ben, on est content. Même quand il double, il y a un dépassement, tout le monde se lève.
Puis on a besoin de ce spectacle.
Dans 5 ans, il sera dernier et on va encore l'applaudir.
Quand il va se garer sur la pré-grille et qu'il va retirer son casque, la foule va encore faire...
Comment on peut expliquer cette
Rossi trouve, il faudrait lui trouver une porte de sortie honorable. Donc il faudrait. Moi je pensais que le team Petronas, maintenant c'est Petronas. C'est vrai que c'était un team qui découvre Yamaha. Je pensais qu'il allait merder moi, team Petronas, parce qu'il découvrait le MotoGP en fait. Et ils sont vachement bien gazés. Donc c'est embêtant parce que moi je pensais qu'ils allaient ouvrir un team satellite pour Rossi. En fait, faire un team vers 46 de MotoGP, et lui, ça lui fait team manager, ça lui fait une porte de sortie honorable pour sortir. Mais si on fait pas ça, il trouvera pas, on va pas le jeter. Donc il faut lui trouver une solution. La Formule 1, ça le tente plus, le rallye, ça le tente plus non plus.
Moi, j'ai encore vu un article, je ne sais pas si tu l'as revu, il est encore passionné, il cherche des solutions, il veut encore participer.
Ouais. Il change ses mécaniciens pour l'année prochaine en disant on va trouver d'autres solutions,
on va essayer d'autres trucs.
Ouais. On a des bruits de paddock où Rossi aurait proposé à Lorenzo d'être pilote d'essai pour Yamaha. Et donc ça prouve que Rossi veut encore jouer la gagne, même si c'est sa plus mauvaise saison depuis la Ducati. Ouais.
Il a même eu des mots vachement sympas pour Quartararo en disant il nous gêne, c'est sûr, mais de l'autre côté, c'est l'aiguille dans les fesses pour montrer que la Yam, elle marche quand même. Et c'est Rossi qui dit ça, quoi.
Il reste motivé à 100% parce que bon.
Et franchement, c'est pas pour le pognon qu'il reste parce qu'il doit être.
Il y en a, je pense. Il y en a mis de côté.
Il y a un article dans MotoJournal.
À 40 balais, bon.
Il y a un article dans MotoJournal qui dit qu'est-ce qui peut pousser un gars qui est milliardaire à mettre des pneus slick et essayer de faire la pole sous une piste mouillée. Ouais. Donc ça résume tout.
Donc ça veut dire qu'il veut pas quitter ce milieu parce qu'effectivement Vincent et Tony, vous devez être pris aussi par l'ambiance qu'elle est sur les circuits tous les week-ends. C'est une vie à part quand même.
Il y a aussi une chose que Rossi a fait et que beaucoup de pilotes n'ont pas fait, c'est de créer une filiale en Italie. Quand on regarde bien le nombre de pilotes qui avaient disparu du circuit en Italie, il n'y avait plus que les pilotes espagnols ou d'autres. Regardez maintenant dans les calendriers en Moto 3, en Moto 2, le nombre d'Italiens
qui sont passés par
Ferrari Academy.
C'est son demi-frère.
Il y a Ben Spies qui n'est pas content, qui dit que la filière américaine, il n'y a plus rien. Quoi. Non, il n'est pas très content. Aux États-Unis, il n'y a plus de pilotes américains.
Non, ils ont complètement changé les courses, ils ont modifié aussi les règlements, qui fait que les. Ce qui court avec certaines motos aux États-Unis, ils peuvent pas courir dans le championnat ailleurs qu'aux États-Unis.
Voilà. Donc j'ai un petit coup de gueule à faire parce qu'aujourd'hui, quand on lit à chaque fois qu'on parle de Rossi, systématiquement on met entre parenthèses son âge. On fait pas ça avec les autres pilotes ou très rarement. Non. Systématiquement on met en avant son âge, 40 ans, 40 ans. On en a rien à foutre. Ce qui est important, c'est qu'il soit un pilote et qu'il nous fasse plaisir.
Il est quatrième du championnat.
Et puis il y a autre chose qui m'agace beaucoup quand on lit les réactions, les commentaires de lecteurs. C'est la haine qui peut exister parfois envers certains pilotes, envers Rossi par exemple, où il y a. Bon, les réseaux sociaux sont une source de fiel et de haine.
Tu te plantes, c'est les fans de Rossi qui sifflent Marquez à chaque Grand Prix.
C'est dégueulasse aussi. Moi, je pense qu'il faut respecter les pilotes. Mais tu es tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Nico. Je pense que, amis auditeurs, si vous êtes habitués des réseaux sociaux et de commentaires, faut pas dire n'importe quoi. C'est des mecs qui risquent leur peau. Certes, ils gagnent leur fric, mais ils risquent leur peau. C'est pas des footballeurs. Les footballeurs, ils risquent pas leur peau sur le terrain, d'accord. On est d'accord, ni les tennismans, ni les golfeurs qui gagnent bien plus que les pilotes de GP. Donc respectez ces mecs-là, vous les aimez, vous les aimez pas. Moi, j'étais pas un fan de Lorenzo. Je trouve ça bien triste qu'il termine sa carrière
sur une mauvaise note.
C'est bien dommage pour lui. Je respecte quand même, et j'aurai jamais de.
Après, il y a eu cette histoire avec Rossi, Lorenzo Marquez, là, il y a 3 ans, là.
En 2015. Dovizioso qui a dit faire la course avec Rossi. C'est un plaisir. Il est propre dans les dépassements. Il pousse pas, contrairement aux jeunes. Il dit c'est propre, les dépassements sont propres, c'est correct.
C'est l'ancienne école.
C'est l'ancienne école. Il dit il me pousse pas et j'ai eu ça la dernière fois.
Il y a d'autres personnes qui pensent peut-être autre chose.
Comment ?
Il y a peut-être d'autres personnes à certaines époques. Rossi a fait des.
Ouais, mais pour parler du clash.
Faut pas dire ça à Biaggi.
On se souvient à la c'est quoi
par exemple.
Qui passe.
Stoner.
Dans les cailloux.
Dans les cailloux.
En 2008.
Et Stoner qui dit t'as été un peu juste quand même. Parce que là, s'il part, il met aussi une partie.
Mais Marquez lui a fait. Marquez lui a fait la même chose quelques années après, au même endroit.
Mais Marquez refait la même chose à Rossi au même endroit.
C'est vrai.
Mais ça reste un grand pilote et puis il restera dans l'histoire de la moto.
Et si vous allez manger une pizza Tavlia, et ben vous allez.
J'en ai mangé plein.
Vous allez à la pizzeria de Valentino Rossi avec son petit magasin. Il y a ses combines exposées.
Il y a même une glace jaune.
Et il y a la photo. Il y a la photo en grand du dépassement de Rossi sur Stoner.
Il y a même quelques autocollants de gens. Il y a même quelques autocollants de gens qui sont passés avant moi.
Je pensais au dernier tour de Grand Prix d'Espagne avec Giberno quand il a fait
en 2004
un freinage plus qu'appuyé pour l'envoyer balader un peu à l'extérieur pour pouvoir passer. Là, c'était ce qui a été très bien de Giberno.
Avoir 20 ans et 40 ans.
C'est que Giberno n'a pas porté plainte. Il a râlé, mais il n'a jamais porté plainte pour genre de choses.
Et Marquez a fait la même chose à Rossi quelques années après.
Ouais, aussi.
C'est dommage parce que Rossi aurait pu être titré en 2015 s'il n'avait pas fait le con avec Marquez. Parce qu'il aurait pu. C'était la dernière année où il aurait pu avoir le titre. Parce qu'il manquait pas grand chose, pas beaucoup de points. Ouais. Il part dernier, il finit 4 à Valence.
Il pouvait avoir son 10e titre.
C'était
la dernière opportunité. C'était sa plus belle saison.
Maintenant, ça va être plus dur.
Souvenez-vous, c'était chaud. Il y avait Marquez qui le.
qui le passait à droite à gauche.
En tout cas, moi, je vais dire un truc.
Et à un moment, ça doit quand même énerver, quand même. Mmh. Quand on est à 250 km/h et qu'on se fait passer comme ça par un gars qui passe à droite ou à gauche.
En tout cas, c'était chaud, mais moi, j'avais tout planqué mes affaires dans mon coffre, mes trucs jaunes, ma panoplie. Quand je suis arrivé là-bas, tout était jaune. Donc j'ai sorti mes trucs. Et voilà. Puis, voilà.
Donc, voilà. Et pour finir avec Rossi aussi, il y a Adorma, hein, parce que l'organisateur du championnat, Rossi, ça, c'est lui qui fait venir aussi les gens, les spectateurs. Ouais. Ah ouais, c'est les tribunes sont pleines.
Il y aura une tribune en moins, je pense.
Il y aura une tribune en moins, oui, mais moi, je pense même que pas deux. Que, deux
moi, je vois bien Rossi aux 24 heures du Mans. Ça remonterait un peu l'endurance. Et puis, voilà. Oui. Au moins, les mecs, ils seraient pas en train de se saouler la gueule.
Au Superbike.
Ouais. Pourquoi
Superbike?
Non, pas au Superbike, ouais. Non.
Moi, par contre, Rio, je le vois bien en moto.
Je trouve que le Superbike, c'est typiquement anglais. Quand on regarde bien le nombre de pilotes...
Mais je pense qu'il ne faut pas parler de retraite, parce que là, actuellement, là, par exemple, à Valence, il a quand même fait un chrono de 1.9, je crois, aux essais qualifs. Il va encore très, très vite. Il ne faut pas parler de sa retraite. Je pense qu'aujourd'hui, il est beaucoup vraiment très rapide par rapport à des pilotes de Superbike et que je pense qu'il y a encore...
Sur la grille, il est 12e quand même.
Ouais, mais,
les chronos sont serrés.
C'est 30.9 à 12e. C'est très rapide.
On va demander à Vincent, parce que le week-end dernier, tu étais là-bas sur le circuit à Valence.
Ouais.
Hein ? Explique-nous un petit peu le circuit. Allez, on part ligne droite. Départ est de Sidoné, ligne droite. Bon bah, c'est à gauche ou à droite le premier virage,
c'est à gauche. C'est un virage avec l'entrée en descente et la sortie en montée, un peu incliné vers l'intérieur. Donc on peut passer très vite et on peut freiner très tard. On ressort du virage. On pense que le virage est très large. En fait, avec la vitesse d'entrée et la réaccélération, on est directement propulsé sur le vibreur. On ressort. On arrive dans une autre ligne droite qui commande le deuxième virage. On arrive. On freine très tard. Pareil, virage incliné vers l'intérieur. On peut remettre gaz très fort, mais on s'arrête quand même beaucoup, donc il faut faire attention. On ressort. Troisième, petite cassure rapide. Moi personnellement, je passe à fond avec ma moto. Après, MotoGP, je pense que ça coupe forcément.
Oui, MotoGP, il coupe. Non, t'étais à fond, toi.
Ouais. Je pense que même les motos 2 sont obligés de couper là. On sort. On arrive sur le quatrième virage. Virage où faut faire attention parce que c'est un virage où on s'arrête fort et c'est un peu en dévers, donc il faut faire attention à l'avant. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chutes dans ce virage, notamment en moto 3. On remet les gaz, on peut ressortir très fort de ce virage où il faut faire attention parce que c'est un virage où on a tendance à sortir un peu dans le vert aussi. Et directement on enchaîne sur le cinquième virage qui est aussi un virage à droite qui est rapide quand même. Et on peut en monter sur la sortie, même fort si on regarde bien, qui est fort en montée, donc on peut remettre très très fort et très très vite les gaz. On arrive sur le sixième virage, un virage à gauche qui est un peu arrêté et en montée aussi. Il faut bien sortir de ce virage puisqu'on commande une ligne droite, donc c'est très important de bien ressortir. Après, on arrive sur une ligne droite avec une cassure, le fameux...
De combien de la longueur de la ligne droite?
Il faut au moins 300 mètres, je pense. Ouais. Un bon 300 mètres. On arrive sur un freinage. Moi, je freine aux 50 mètres. MotoGP, je pense que ça freine à la cassure avant, pour ceux qui connaissent bien le circuit. Je freine aux 50 mètres, virage à gauche, à demi-tour, mais quand même assez grand pour un demi-tour, donc on peut passer vite dedans. Moi je rentre large, j'avais tendance à pointer très vite vers l'intérieur, à fort ressortir. On arrive sur, après ce virage, on arrive sur une double cassure, un gauche-droite, très rapide, où il y a beaucoup de chutes dans le deuxième parce qu'il faut prendre les freins sur le vibreur, et généralement ça glisse un peu. Quand on a pris les freins, on arrive sur un autre demi-tour, qui commande la petite ligne droite. En MotoGP, les pilotes ont tendance à aller loin avant de rentrer pour bien pouvoir accélérer. Personnellement, avec les motos 3, il faut rentrer très tôt parce que c'est des motos qu'il faut mettre beaucoup de vitesse de passage. On arrive dans la petite ligne droite, on arrive sur le droit en montée où il y a toujours de belles images en moto 3 et de belles chutes en MotoGP. Ce petit virage, il est très important, il commande la dernière partie du circuit où si on veut dépasser dans le dernier virage, il faut forcément bien ressortir de ce virage pour pouvoir attaquer. C'est un petit droite assez serré. D'ailleurs, c'est à peu près un pif-paf parce que si on regarde bien, le gauche d'après, il se suit, c'est carrément collé, donc il faut bien sortir. Le gauche d'après, c'est un grand virage en montée, avec l'entrée en montée et la sortie en descente. Forcément, ça glisse. En MotoGP, ça glisse beaucoup même. Il y a tout le temps de belles photos qui sont faites dans ce virage. Et on arrive sur le dernier virage, le virage 14 en descente. avec la sortie qui commande la grande ligne droite, donc très importante. Et il y a toujours, toujours, toujours de gros dépassements dans ce virage. Mais il faut faire attention parce que c'est un virage où on peut facilement perdre l'avant si on ne dresse pas assez fort la moto. Et dans à la sortie du virage, il y a une petite montée avant la ligne droite. Je ne sais pas si vous saviez. Il y a une petite montée avant la ligne droite qui commande... Et sur le vibreur, il y a tout le temps un trou énorme. Mais un trou, quand je vous dis un trou, la moto limite, elle saute. Vraiment. C'est...
Il y a un trou...
Un dénivelé. Non, en fait, le vibreur, il s'arrête net. Donc la moto, avec l'élan, ça saute. Et... Faut faire attention parce que si on est un peu incliné, c'est du cross.
Ah oui, là, si t'as de l'angle, là, c'est pas... Voilà. Et là, on repasse devant la ligne au départ. Ouais, ou la ligne d'arrivée, si on veut.
Ouais.
Voilà, très bien. Et donc, c'est un circuit vallonné.
Ouais, ça,
donc, les motos 3, donc, il faut toujours conserver de la vitesse pour pouvoir remonter...
Ouais, et surtout, il faut garder... En MotoGP, je pense pas qu'ils gardent beaucoup d'élan parce qu'ils ont beaucoup plus de relance que nous. Ouais. Mais en Moto 3, je pense que c'est surtout la vitesse de passage qui est très importante.
C'est une piste. C'est vrai que par tous ces petits détails, on voit que c'est une piste quand même délicate qui nécessite beaucoup de connaissances de la piste. C'est une piste difficile. C'est pour ça que les pilotes en MotoGP, c'est dur de partir. Et c'est vrai que c'est une course, c'est une piste très technique. Et voilà, bon, deux belles courses qu'on va voir.
Bon bah très bien, merci Vincent pour ce tour du circuit Ricardo Tormo à Valence. On va passer un morceau de musique et on se retrouve juste après.
Oh,
Alors on termine avec ces motos GP, on faudrait parler de Ducati aussi, Nicolas.
Oui, donc
et Suzuki aussi.
En aparté, on parlait de Vinales là, et c'est vrai que Vinales, il sort la fin de saison, il se montre, mais il a vraiment pas eu de bol cette année. Hein. C'est un truc de fou ce qui lui est arrivé quand même. Hein. Moi, je trouve qu'il a été assez cool parce que il a quand même eu, il s'est fait accrocher par Morbidelli en Argentine, par Banaya au Mans, il s'est fait faucher par Lorenzo en même temps que Rossi d'ailleurs en Catalogne. Et là, en Australie, on l'a vu, il a fait toute la course en tête et il chute dans le dernier virage sous la pression de Marquez. Donc il a vraiment pas eu de bol cette année. Il a fait 4 résultats blancs alors que c'était quasiment pas de sa faute, quoi, à part le dernier.
Ouais, mais ces résultats, ils ont commencé que vers le Grand Prix de Hollande. Ouais.
Et il a fait des déclarations assez bizarres. Il dit que la moto qui lui conviendrait le mieux, lui, c'est une Ducati. Et Vinales. Ah. Donc il est en train de préparer ça.
Bah, je propose un truc, il va chez Ducati, Zarco, il prend la moto.
Ouais, mais c'est pour l'année prochaine.
Chez Ducati, c'est.
Chez musical, c'est l'année prochaine.
Moi, si vous écoutez, moi je propose une proposition. Moi,
je pense que c'est Fabio qui prendrait sa place à ce moment-là.
Ouais,
je pense
mais
aussi.
Il y a des chances. À mon avis, il aimerait bien être Ducati officiel l'année prochaine. Hein.
D'après les déclarations du boss de chez Ducati. C'est 50% la moto, 50% les pilotes, si ça va pas. Il est pas très content. Il y en a un peu marre de chaque fois de se retrouver en deuxième place. Et ils ont promis pour l'année prochaine une moto révolutionnaire, une fois de plus.
Bah oui.
On verra cette année, ils avaient mis une petite gouttière sur la roue avant et sur la roue arrière. Et après, tout le monde en avait mis.
Et hier, Marquez n'avait pas d'aileron, mais il allait aussi vite que s'il avait.
J'ai regardé le règlement pour l'année prochaine. Tout ça, ça sera bien contrôlé. Hein, les petits ailerons, tout ça. Donc, mais on parle de Ducati, finalement, c'est quand même Devi qui est deuxième au championnat du monde. Hein.
Ouais, c'est ça.
Avec 256 points. Évidemment, il y a quand même une différence avec Marquez qui en a 386. Voilà.
Par contre, la troisième place, ça va se jouer entre Rins et Vinales. Ouais, parce qu'ils sont vraiment très proches.
Alors, si on revient un petit peu sur Suzuki.
Bah, Suzuki, Rins, il a bien roulé. Hein. Il a 2 victoires. C'est pas mal ce qu'ils ont fait. Moi, quand je vois la Suzuki, je regrette de ne pas voir Zarco dessus.
Ah, c'était l'erreur.
Ouais. Je me dis, s'il avait été dessus, j'aurais pu vraiment faire quelque chose. C'est une moto qui a l'air assez proche de la Yamaha, qui a besoin d'un bon pilote pour passer le cap. Ce que fait Rins, Zarco aurait pu le faire, à mon avis. Donc, il a quand même eu 2 victoires, il a fait 3 podiums.
Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, Suzuki n'a pas voulu de Zarco. Et après, Suzuki a refait une proposition à Zarco et c'est Félon qui n'a pas voulu. Ils n'ont pas voulu de moi une première fois. Il n'y a pas de raison de revenir.
Il ne faut pas oublier qu'il y a un super pilote qui développe la moto, c'est Sylvain Gattoli, qui fait des piges aussi en MotoGP. Et à mon avis, il est pour tout ça dans les bons résultats de la moto. Ils sont très contents chez Suzuki, un ancien champion du monde Superbike d'ailleurs. Et voilà.
Donc si on parle un petit peu de Moto2, parce que le temps passe.
Je voudrais dire encore un petit truc, 5 minutes, enfin quelques minutes. Alors il y a 20 ans, Régis Laconi gagnait à Valence, en septembre 99. Si Quartararo gagne aujourd'hui, la boucle est bouclée. Voilà. Cocorico. Bon.
Voilà. Donc Moto 2, c'est le frangin, donc Alex Marquez. Hein,
deux champions du monde, deux frères champions du monde la même année, c'est pas banal. Hein. Bram Binder deuxième, avec le châssis KTM qui fonctionnait pas du tout au début de la saison, parce qu'il a fallu. Ils ont essayé plusieurs châssis tout le long de la saison, il n'y a qu'à partir de la Hollande ça a commencé à marcher.
Enfin, Bram Binder, il est deuxième pour l'instant, mais Lutti est juste derrière quand même. Hein. À 4 points, ça fait pas beaucoup.
Lutti, lui, il est redescendu de MotoGP, hein, et c'est quand même sa 9e saison en Moto2, avec une seule victoire cette année, mais toujours pas loin du podium. Hein,
Oui, je pense que pour lui, c'est une bonne saison, parce que ça rachète complètement la saison dernière, où il a pataugé en Moto Grand Prix toute la saison, quoi. Je pense que pour lui, on le voit, il sourit, il est tendu, alors qu'il joue quand même une deuxième place. Hein,
et Lutti, c'est le Rossi de la Moto2. Avec l'âge, c'est un vétéran.
Oui, pas loin.
Après, il y a Navarro qui a fait la pole là, et qui. Il a fait 5 poles cette année, mais il attend toujours sa première victoire en Moto 2.
Par contre, ça se joue bien avec le cadre speed-up. Parce que le speed-up, cette année, ils ont éclaté l'année dernière avec Quartararo, avec 2 victoires, une refusée, mais 2 victoires.
et pas mal de bons podiums l'année dernière. Ouais. Et cette année, il y a d'autres pilotes. Hein,
Non, l'année dernière, c'était à cause de la pression des pneus, Quartararo.
Oui, il a été refusé pour 0, je sais plus quoi.
Ah bah tiens, le mec est arrivé deuxième hier avec la moto électrique, là, et pareil.
Moi, j'ai pas regardé.
Ils ont... Non, mais j'ai vu qu'ils avaient refusé son truc parce qu'il manquait quelques grammes dans son pneu. Ouais.
Comme je disais, il y a un autre pilote avec la même moto et qui débute.
On n'a pas le temps de parler des motos électriques, mais bon,
on en parlera voilà.
la prochaine fois. Voilà. Et donc, alors, KTM qui lâche la moto 2.
Ils vont lâcher. Ouais. Je pense qu'ils ont l'impression de. C'est dommage parce qu'ils lâchent au moment où ils réussissent. Ils ont lâché en milieu d'année en disant ah non, sans l'année prochaine qu'ils ne faisaient plus. Et c'est au moment où sa moto elle marche. Enfin, quand tu regardes bien les résultats. Tous marchent.
Bah, ils ont annoncé ça le jour où ils ont gagné.
Oui, pratiquement. Exactement comme Ducati avec, avec Lorenzo l'année dernière.
Il paraît que chez Ducati, Lorenzo, c'était juste la position du réservoir. Ils auraient changé une pièce qui allait pas et c'est tout. C'était sa morphologie qui s'adaptait pas à la moto.
Et le rookie en ce moment, c'est Di Giantonio et il court sur une pile-up aussi. Et sa première saison en moto 2, il marche bien.
Et on attendait Baldassari cette année, on pensait que Baldassari
Alors au début de saison, franchement, je me disais... Pourtant, moi, je l'ai placé 6e ou 7e sur ma liste qu'on avait fait, parce que je me suis dit, il va encore gagner une ou deux courses, et puis après, il va s'effondrer. Puis il gagne 3 courses sur 4, je me suis dit, waouh, disons... puis après, plus rien.
Un peu comme Luca Marini.
Comme d'habitude.
Un peu comme Luca Marini. Deux victoires d'affilée.
Oui, l'année dernière, mais il a commencé une saison.
Cette année, deux victoires d'affilée.
Ouais, mais en fin de saison.
En fin de saison.
Par contre, c'est vrai que Navarro et Fernandez, eux, ils ont fait un sacré bon classement.
Ils ont bien progressé.
Augusto Fernandez, oui. Je pense qu'il faudra le suivre l'année prochaine. C'est vraiment quelqu'un. L'année dernière, il a fait juste des piges, des remplacements. Il marchait déjà bien. Ça a été repéré. Il a été incorporé. Et cette année, à Lyon. Pas mal, franchement.
Il y a Bastianini qui était le meilleur rookie cette année. Et...
Oui, mais il se fait passer là, petit à petit par justement Di Giantonio.
Et après, il y avait Martin et Bezecchi. Alors eux, comme ils avaient une KTM qui marchait pas en début de saison, on n'a pas bien vu ce qu'ils faisaient. Mais là, ils commencent à bien marcher.
Martin marche bien aussi. On dirait qu'il a trouvé le moyen. Bon, l'année prochaine, il devra changer de machine.
Bon, alors on rappelle que cette catégorie Moto 2, c'est le moteur Triomphe.
Oui.
Voilà. Avec un châssis libre. Avec
sans anti-patinage.
Un châssis libre.
C'est aussi pour ça, à mon avis, ça n'intéresse pas KTM. KTM, lui, il veut une machine avec 100% KTM.
Alors,
par contre, il y a MV maintenant. Il y a MV qui est apparu dans les. Avec un moteur. Eux, ils font des moteurs 3 cylindres aussi, mais là, c'est le moteur Triumph.
Voilà. Et donc, si KTM lâche la moto 2, KTM revient avec X-Warner en moto 3.
Ouais, qui est une, KTM rebadgée.
Non, elle est modifiée, elle est un peu modifiée. Il y a quelques différences quand même. Voilà.
Donc si Vincent il dit ça, c'est que il est en train de se dire ce serait bien ça. Pour moi.
Il y a quelques pilotes, je dirais, à suivre pour l'année prochaine. C'est Rémi Gardner, qui a prouvé qu'il était un bon pilote, encore inconstant.
Il tombe souvent.
Mais justement.
Il est généreux.
Il est généreux, on va dire. Et oui, mais aux vitesses, on sent qu'il y a la vitesse pour l'instant. Et c'est rare quand même de prouver. Il n'a pas fait la saison qu'il aurait fallu, parce qu'au début de saison, il était quand même mieux placé. Et là, bon. Mais je pense que c'est à retenir aussi pour l'année prochaine, c'est jamais.
Voilà, donc pour la Moto 3.
Bah, la Moto 3, on avait quitté la saison à Valence l'an dernier avec un jeune prodige de 15 ans, le Turc là, Kanonku.
Kanonku.
Ouais. Et qui avait remporté le Grand Prix pour sa toute première apparition en mondial. Il était en wildcard. Hein, et il devenait le plus jeune vainqueur d'un Grand Prix à 15 ans. Mais seulement, il est engagé cette année. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas concrétisé. Hein. C'est bizarre. Hein. Il y a des choses qu'on ne comprend pas trop. Hein. Il y a quand même 11 vainqueurs sur 18 courses. Oui. Donc c'est énorme. C'est la variété pour trouver de la variété là-dedans.
Ça reste des saisons passionnantes là quand même.
C'est un spectacle.
Le moto 3, c'est fabuleux.
Ouais, ça change.
En MotoGP, on a mis un nom sur le vainqueur, le premier Grand Prix, on savait déjà qui allait gagner. En Moto 3, c'est passionnant.
En Moto 3, on sait jamais qui va gagner.
On sait jamais qui va gagner, et
avant le dernier virage non plus.
Ça reste
pas en Moto 3.
Ça reste fabuleux. Les courses, c'est les plus belles courses du championnat.
N'empêche que j'avais parié pour De La Porta vainqueur c'est avant vrai. Le début du Grand Prix et De La Porta a gagné.
Grand pilote.
Et Ramirez, troisième. Bon et il doit être troisième parce que
tu remportes le chèque de 1000 euros.
Il a deux points de retard sur Arbolino.
Et Canette à la ramasse un peu.
Et Canette, ouais. Alors, faut avouer qu'il y a une KTM. Ouais. Et les alors, KTM marchent moins
pour
bien.
Pour parler d'Arbolino, il passe quand même de la 18e à la 3e place au classement. Il était 18e en 2018.
Qui ça?
Arbolino.
Oui.
Quand même un sacré bon au classement. Quoi.
Ouais.
Bon, là, on rappelle que c'est des pilotes qui ont 15, 16, 17 ans. Hein. Mm. 18 ans même.
Je crois que c'est bien. Il y avait plus 17, 18.
Ah, 17, 18.
Il y en a 17, 18.
Il y en a 15. Il y a Vietti aussi qui est arrivé en cours d'année dernière, qui a fait 4 Grands Prix l'an dernier et qui arrive cette année à être 7e au classement aussi. Hein. Ouais. C'est des gens à suivre l'année prochaine.
Il a fait des belles choses. Ouais, il s'est battu souvent devant.
Grand podium.
Bien. Il n'a pas encore gagné, mais ça peut arriver.
C'est pas fini. C'est pas fini.
Oui, Nicolas. Oui.
Non, je voudrais,
exprime-toi.
Je voudrais aussi féliciter le team Guyot, vice-champion du monde super sport. Donc ça c'est bien. Français, c'est voilà. Cocorico.
Ah oui,
faut pas oublier.
Une très bonne très belle saison.
Voilà. C'est fait. Ouais. Voilà. Et Claude, je te fais le chèque tout de suite, hein, puisque t'as gagné le pari. Voilà. Voilà, allez, on passe un morceau de musique et on se retrouve juste après. Ça va Claude? Ça va bien? Voilà, non. Voilà. Est-ce que vous connaissez l'homéostrasie?
L'homéostasie.
Ça vous dit quelque chose?
On dit l'homéopathie, on dit.
Oui, stasie, je connais, mais l'homéostasie.
Bah, notre moteur citoyen, qui est Marc Brizy, voudrait nous parler de ce sujet. Alors, moi, je ne sais pas ce que c'est.
Bon, déjà, je vais dire bonjour à tout le monde parce qu'il y a du beau monde aujourd'hui et je voudrais tous les saluer. Et donc, je vais vous parler de la théorie de l'homéostasie du risque. Selon M. Gerald G.S. Wild, qui est un chercheur canadien, qui est reconnu... Non, il est canadien, mais il est reconnu mondialement. Ses études sont reprises partout dès qu'on parle de risque en circulation. Alors, en quoi est-ce que ça concerne les motards et qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Chacun sait que les motards, c'est des trompe-la-mort, amoureux du risque, de la vitesse. Au fait, coucou Jean-Yves, coucou M. E. Barbe, et aussi de la transgression. On est amoureux de la transgression. Voilà. Alors, on parle même pas de l'alcool et du sexe, parce que là, ça va être trop rigolo. Si on quitte un peu les clichés, c'est vrai que chaque fois qu'on est en bécane, on a conscience qu'on vit des risques. Où est-ce que se trouve le curseur et comment est-ce qu'il faut le régler? Voilà. Comment courir moins de risques? Ben voilà à quoi s'intéresse M. Gerald Wild. Et on va donner une définition. L'homéostasie, c'est un phénomène par lequel un facteur clé est maintenu autour d'une valeur bénéfique pour le système considéré grâce à une régulation.
Le meilleur
exemple qu'on peut donner de ça, c'est par exemple la température corporelle.
Oula.
Notre corps a besoin d'être maintenu à 37,2 de façon générale. Quand on a de la fièvre, on évacue la chaleur supplémentaire due aux bactéries. Quand il fait froid, on concentre la chaleur sur les organes nobles. C'est une homéostasie, par exemple. L'autre exemple, c'est ton thermostat sur le radiateur de ta chambre. C'est lui qui va maintenir la température dans ta chambre en déclenchant ou pas la chaudière. Ça aussi, c'est l'homéostasie. Donc vous voyez que ça s'applique à plein de domaines différents. Ça s'applique à la conduite des véhicules à moteur et donc bien sûr aux motos. Alors je vous donne la réponse à cette question. Chacun fixe le niveau de risque acceptable en fonction de sa confiance en l'avenir. Ça vous épate, hein ? C'est son optimisme vital. On peut dire en anglais « nothing venture, nothing gain ». Quand tu risques rien, t'as rien. Ah. Donc en gros, plus t'as quelque chose à perdre et plus t'es prudent. Ça paraît incroyable, mais c'est vrai. Bien sûr, officiellement, chacun vise un risque zéro. Je parle pas de notre ami qui est en course, là, parce que lui, il est obligé d'en prendre des risques et des gros. Mais je parle de nous, sur la route, personne ne va te dire qu'il cherche l'accident. Mais en fait, la perception du risque, c'est quelque chose d'individuel. Ça change tous les jours, selon les moments. C'est pas toujours conforme à la réalité des moyens. Bah, y a des gens qui se prennent pour des pilotes, qui prennent des risques inconsidérés, sans se rendre compte, qui mettent tout le monde en danger. Ça change en fonction du terrain. Plus les lieux sont connus et plus ils sont dangereux. On remarque qu'il y a plus d'accidents sur le dernier kilomètre avant la maison. On est un peu démobilisé, on connaît trop le terrain. C'est là qu'on se fait piéger. Bon, donc on comprend bien que homéostasie, ça veut pas dire permanence. Il y a du réglage et ça peut changer. Alors, tout se passe comme si on établissait un équilibre entre le bénéfice qu'on escompte et les risques. La vitesse, le danger de contravention. La facilité de se déplacer, le danger de blessure. L'équipement, la nécessaire protection. Voilà, il faut trouver l'endroit où mettre le curseur. Ce qui entre aussi en ligne de compte, c'est l'acceptabilité sociale de nos comportements. Je pourrais juste rappeler, par exemple, à propos du tabac. Moi, quand j'ai commencé à aller dans les hôpitaux pour apprendre mon métier, on fumait encore dans les couloirs des hôpitaux, dans les chambres même, parfois. Aujourd'hui, il ne faut même pas s'approcher avec une cigarette d'un hôpital. Bon, on peut parler aussi des destructions de radars. Pour l'instant, il y en a énormément. Elles ont l'air plutôt bien acceptées socialement. Les gens se sentent autorisés à détruire le radar parce qu'ils ont comme une gêne avec cette limitation de vitesse. Ils ne veulent pas l'accepter. Donc l'acceptabilité sociale, c'est important. Les autorités, elles cherchent à réduire la mortalité routière parce qu'elle est mal acceptée socialement. Il y a deux attitudes principales, l'éducation et la répression. Je passe volontairement sous silence le troisième E en anglais, qui est l'aménagement des routes. En anglais, ça s'appelle Engineering, Enforcement and Education. Deux anecdotes. À Berlin, en Allemagne, quand l'ABS a été inventé, les gouvernants ont trouvé... sympa, d'obliger tous les taxis à s'équiper d'ABS. Alors, il y a d'abord eu une baisse notable des accidents, puis ensuite, le taux est remonté pour revenir au même niveau. On s'est aperçu, après enquête, que les chauffeurs avaient vite amélioré leur freinage grâce à l'ABS. Du coup, ils ont modifié leur conduite en conséquence. Ils ont réduit les distances de sécurité. Et du coup, le taux d'accident est revenu à la même chose. En Scandinavie, autre exemple, les chauffeurs de bus scolaires. Ils ont suivi un entraînement à la conduite sur verglas. Ça paraît pas idiot, ils gèlent souvent en Scandinavie. Bah, ils ont vite arrêté parce que finalement, les chauffeurs prenaient plus de risques et du coup, il y avait plus d'accidents. Donc, l'entraînement n'est pas une garantie de la baisse du niveau de risque par tête et par kilomètre parcouru. Sinon, les vieux motards, ils n'auraient jamais d'accident. Je rappelle le petit proverbe, il y a des fous, il y a des vieux, mais il n'y a pas de vieux fous chez les motards. Bon, toutes ces politiques qui essayent de réduire le risque d'accident sont souvent formées sur la récompense. Il y en a qui sont plus prometteuses que d'autres, bah, c'est celles qui réussissent à augmenter notre désir de sécurité. Voilà. Alors, les récompenses pour chaque période d'accident sont plus efficaces quand elles sont plus petites. Bah oui, parce que là, il y a plus de chauffeurs et de conducteurs d'engins qui se disent qu'ils peuvent atteindre la récompense. Et du coup, celle-là, elle marche mieux. En gros, il y a deux grosses organisations sociales qui sont capables de mener des politiques de sécurité routière. C'est le gouvernement et c'est les assurances qui sont l'autre gros partenaire. Les assurances, elles paraissent capables d'être plus efficaces et pourtant, elles sont incapables de mener ces politiques avec vigueur sur le long terme. Ben oui, parce qu'un taux faible d'accident, c'est pas dans l'intérêt de leurs bénéfices comptables. La chaîne des professionnels qui tournent autour des accidents est énorme. Si vous réfléchissez bien, les constructeurs, les réparateurs, fournisseurs de pièces, experts, les gestionnaires d'assurance, tout ça, ça tourne bien avec les accidents et ça fait du bénéf. Ça paraît affreux, mais ça fait du bénéf. Un directeur d'assurance que je ne citerai pas, bien que je connaisse son nom, me disait qu'un mort, ça a un prix. On est tranquille, on sait ce que ça coûte. Un blessé, on ne sait pas. C'est beaucoup plus embêtant. Bien. Donc, les assureurs, ils vendent de la tranquillité d'esprit. C'est bien. Mais ça représente justement le cœur du problème. À tel point que il n'y a rien d'étonnant à ce que les assurances touristes, qu'elles aient été interdites dans certains pays à certains moments. Parce qu'on les voyait comme encouragement à l'imprudence. En fait, on disait, l'assurance est un pouce au crime. Mais oui, c'était trop tranquille. Les gouvernements, ils ont envie de paraître agir. On l'a bien vu récemment, avec des grosses mesures, des grosses déclarations, tout ça. Mais en fait, ils ne font pas vraiment quelque chose. On le voit bien au niveau municipal, par exemple, avant les élections là, qui vont arriver, on va voir de la peinture sur toutes les zones routières, de la peinture blanche qui va fleurir, parce que ça, c'est pas cher, c'est vite fait. Et ça donne l'impression qu'on entretient le réseau routier. Les citoyens, ils semblent prêts à accepter le taux d'accident en échange de leur usage de la route. Ils sont mieux disposés à accepter les pratiques de sécurité s'ils en sont effectivement récompensés. À ce moment-là, ils mettent la pression sur les gouvernements pour augmenter la sécurité. Et comme tu m'as demandé de faire vite, la
oui,
biche...
Oui, bah, je suis désolé, bah, voilà. J'ai pris par le temps.
Et ben bah, voilà.
Voilà, donc c'était la rubrique...
Conclusion de l'histoire, chacun fixe son niveau de risque acceptable en fonction de son optimisme pour l'avenir. Alors, si t'es un jeune père de famille avec une femme amoureuse si. Et une belle carrière devant toi, tu vas moins accepter de prendre des risques que si t'es un vieux quinquagénaire dépressif ou que si t'es un jeune no futur. Et ouais. Malheureusement... Ça se constate tous les jours. Nous-mêmes, par exemple, on prend des fois la moto, on est de bonne humeur, on a le sourire aux lèvres, on va rouler plus ou moins fort selon ce qu'on est capable de faire, mais on va être dans l'attention au risque. Parfois, on a été énervé, on a été contrarié, ou alors on est triste, ou on est déçu, et on va prendre bizarrement des risques que jamais on aurait accepté dans d'autres circonstances.
Merci Marc, merci pour cette rubrique.
C'est
merci.
Moi qui vous remercie.
Voilà, et c'est comme Vincent, ben en fait, voilà, il calcule. Hein. Dernier Grand Prix, 249 points. Le deuxième, 166. Il se dit, ben, pourquoi prendre des risques alors que j'ai pratiquement plus de 80 points d'avance. Et là, ben, tu te dis, ben, c'est pas la peine d'aller trop vite. Pour de rester bah, voilà, sur les...
Oui, non, puisque...
Tu dis jamais ça.
Non, à l'entraînement, c'est pas ça. Hein.
Voilà. Et c'est... Je voudrais revenir aussi sur le 2020. L'année prochaine, il y a un nouveau Grand Prix. C'est en Finlande.
Ouais. Dans les bois.
Et par contre, le circuit n'a pas encore été homologué. Donc, il y a bien un Grand Prix à l'époque. Balou, oui. Pas dans le micro, s'il te plaît. Ça s'appelait comment le circuit?
L'Horloge.
Imatra.
Imatra.
Et voilà. Et donc c'était un circuit fantastique parce que en fait il y avait une ligne de chemin de fer qui traversait
les bottes de paille.
On le retrouvait dans
qui avait un rond-point. Circus.
Ouais voilà donc dans Cheval de fer qu'on a regardé tiens vendredi soir et on retrouvait donc c'était un beau circuit hein, c'était naturel pour se balader quoi. Et donc ça c'était l'époque. Donc 20 grands prix, il y en a un de plus, hein, 20 grands prix. Et on parle d'ici 2022-2026 à 22 ou 23 grands prix.
Oui, ils vont étaler aussi.
Alors comment vont faire les pilotes pour pouvoir parce que
a priori la saison de 22.
La saison va devenir longue.
Hein. Avec le réchauffement climatique, on va pouvoir rouler l'hiver maintenant.
C'est chiant, c'est l'abonnement Canal+, c'est plus cher.
Et par contre, on n'a pas parlé de moto électrique, Nico. Est-ce que tu connais celui qui devrait normalement gagner le premier championnat du monde de moto électrique?
Non, je ne veux pas le savoir.
C'est Trulli. C'est Trulli.
Non, c'est, bah, moi j'ai Matteo Ferrari.
C'est
Ferrari, c'est lui qui gagne le.
Hein,
donc il y a une histoire aussi, le premier Grand Prix, tout a brûlé. Hein, en début de saison, au mois de mars.
Ils ont commencé par faire une flambée.
Ouais. Et puis, voilà. Donc on retrouve. Bah, Vincent, peut-être qu'on se retrouvera l'année prochaine. Là maintenant, c'est l'intersaison maintenant. Hein, ton premier Grand Prix, ça repart quand?
C'est Nicole. Personnellement, je ne sais pas où dire la date.
Historil, la première course.
Et donc,
course,
et donc Historil,
le calendrier n'est pas encore sorti.
Et aussi, toujours pareil, le CEV ou une évolution
championnat du monde Moto 3 Junior, normalement.
Junior.
Actuellement, ouais. Bon, c'est pas encore déterminé, puisqu'en fait, il nous faut beaucoup de budget. Là, pour l'instant, on n'a pas encore finalisé. Donc là, lors d'aujourd'hui, on ne sait pas vraiment ce qu'on va faire. On voudrait bien faire le championnat du monde junior. En 2021, on voudrait bien faire les Grands Prix. Mais...
Alors, la Moto 3, c'est pour quand?
La Moto 3 Grand Prix.
Oui, Grand Prix.
Bah, 2021, 2020, normalement, puisqu'on va normalement participer à 3 Grands Prix en wheelcard.
Parce que je rappelle qu'il n'y a plus de Français dans les. Il n'y a plus de Français en Moto 3 et en Moto 2. Hein.
Moto 2 si tout se passe bien, on sera au départ du Grand Prix de France l'année prochaine.
Grand Prix de France, en wheelcard.
Oui, en wheelcard, en pilote invité.
D'accord. Et avec quelle moto?
Avec une KTM. Moto, une KTM qu'on est en train de faire l'acquisition.
C'est
avec notre équipe, avec une équipe perso, en fait, avec notre équipe TFC Racing.
Juste une question, KTM ne court, enfin ne marche bien qu'une année sur deux. Et cette année, ils n'ont pas bien marché, donc l'année prochaine, c'est
ouais,
bien.
Normalement, ouais.
Donc, ouais, on va pouvoir t'apercevoir au Grand Prix de France en wheelcard. Alors, je vais vous dire, le Grand Prix de France, c'est simple, hein. C'est le 17 mai, l'année prochaine.
Le 17 mai.
Le 17 mai. Donc, Vincent, tu ne savais pas. Voilà. Merci, Claude.
Ouais.
Rien à rajouter?
Non, pas vraiment.
Non. T'es sûr?
Il y a toujours plein
de choses. On n'a pas parlé de ça. Voilà.
Ouais,
merci, ouais. Jean-Pierre, bon duel.
Pour, ouais, si, on a oublié de dire aussi. Fenati, il a couru cette année en Moto 3.
Ouais.
Je pensais qu'il allait marcher mieux que ça. Mais bon, il a quand même gagné un grand prix. Un seul, mais bon.
Voilà, Nicolas, on termine. Une chose à rajouter aussi?
Ouais, les bonnes choses ont toujours une fin.
Notre franco-grec Yanis, t'as appris des choses aujourd'hui.
Moi, j'ai appris plein de choses.
Voilà. J'ai appris plein de choses et puis je vous souhaite un bon dimanche. J'ai roulé bien, voilà. Il fait beau là. Bon, un peu frais, mais il fait beau.
Vincent et Tony, peut-être qu'on se retrouvera l'année prochaine, hein, en début de saison, peut-être.
Peut-être. Ouais.
Le premier Grand Prix, c'est le 8 mars au Qatar, hein, comme d'habitude. Ouais. Voilà. Nicolas.
Moi, je suis content. Ça passe trop vite. J'avais encore plein de choses à dire. En plus, un jeune pilote à côté de moi. Donc, pour moi, c'est merveilleux. La passion, voilà. J'irai au Grand Prix de France le voir rouler.
Il y a que là qui fait des grands, signes. Dis-nous un peu ce que tu...
J'ai dit qu'il y avait un pilote qui avait couru longtemps, jusqu'à 46 ans.
Oui.
Je me souviens de son nom. C'est Mazzetti.
Voilà, Mazzetti.
Umberto Mazzetti.
Voilà, Umberto Mazzetti. Un Italien.
Italien.
Italien. Très bien. Voilà, l'émission se termine. Rendez-vous dimanche prochain, même heure, hein, et même endroit, sur le 106,6.
Salut.
Voilà. Et merci, Laurent.
Salut.
Bon dimanche à tous.